Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Enfance de Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute y raconte, sous la forme d'un dialogue entre elle-même et sa conscience, ses souvenirs d'enfance, rassemblant ses 11 premières années. Cette période est déchirée entre ses parents divorcés et sa biculture, entre d'un côté la Russie et de l'autre la France. Enfance passée entre Paris, Ivanovo en Russie, la Suisse, Saint-Pétersbourg et de nouveau Paris. Nathalie Sarraute essaye d'être aussi sincère que possible et cette œuvre s'avère une sorte d'introspection où elle s'interroge sur la véritable nature de sa mère, froide et distante, et qui finit par l'abandonner à son père vers l'âge de 8 ans et demi en février 1909. Toutefois, vers la fin du livre, elle explique comment elle parvient à renouer tardivement le lien avec sa mère. Le système des deux voix dédouble le livre. Un récit d'enfance et un témoignage sur la méthode d'investigation du passé élaborée par l'auteur pour déjouer les pièges traditionnels de l'entreprise autobiographique. En 1983, Nathalie Sarraute publie donc « Enfance », qui fait revivre le monde disparu des immigrés russes à Paris au début du XXe siècle. Dans ce recueil de scènes isolées, l'écrivain s'efforce de retrouver ce qui constitue sa personnalité, s'attachant en particulier à reconstituer ses premières rencontres avec les mots, le plaisir de la lecture et l'activité introspective de l'écriture. Écriture à deux voix. Ce texte se présente sous la forme d'un dialogue entre l'écrivain et son double, qui soumet l'entreprise autobiographique à un contrôle à la fois constant et rigoureux. Nathalie Sarraute, de son nom Natalia Ilichna Sterniak, est née le 18 juillet 1900 à Ivanovo, Voïnesenk, en Russie, près de Moscou, dans une famille de la bourgeoisie juive assimilée, aisée et cultivée. Ses parents divorcent alors qu'elle est âgée de 2 ans. Sa mère l'emmène vivre avec elle à Genève, puis à Paris, où elles habitent dans le 5e arrondissement. Chaque année, elle passe 2 mois avec son père, soit en Russie, soit en Suisse. Ensuite, elle ira de nouveau vivre en Russie, à Saint-Pétersbourg, avec sa mère et le nouveau mari de celle-ci. Le père de Nathalie, qui connaît des difficultés en Russie du fait de ses opinions politiques, sera quant à lui contraint d'émigrer à Paris. Il crée une usine de matières colorantes à Vanves. La jeune fille grandit ainsi près de son père à Paris, et avec Vera, la seconde femme de son père, et bientôt avec sa demi-sœur Hélène, dite Lily. Cette période entre 1909 et 1917 sera difficilement vécue par elle. Elle reçoit une éducation cosmopolite et, avant de trouver sa voie, poursuit des études diverses. Elle étudie parallèlement l'anglais et l'histoire à Oxford, ensuite la sociologie à Berlin, puis fait des études de droit à Paris. Elle devient avocate et s'inscrit au barreau de Paris. Parallèlement, Nathalie Sarraute découvre la littérature du XXe siècle, spécialement avec Marcel Proust, James Joyce et Virginia Woolf, qui bouleversent sa conception du roman. Quand Nathalie Sarraute publie en 1939 un premier recueil de 19 récits, Tropisme, ignoré jusqu'à ce qu'il paraisse en 1957, elle inaugure ce qu'Émile Henriot, critique littéraire au Monde, nomme en mars 1957 le nouveau roman. En 1940, elle est radiée du barreau à la suite des lois anti-juives et décide de se consacrer à la littérature. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle héberge un temps Samuel Beckett, dramaturge du théâtre de l'absurde, recherché par la Gestapo pour ses activités de résistance. Elle réussira à rester en Île-de-France, non sans se plier à plusieurs changements d'adresse et à l'usage de faux papiers. Elle est contrainte de divorcer en 1941 pour protéger son mari d'une radiation du barreau. En 1960, elle compte au nombre des signataires du manifeste des 121, titré « Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie ». En 1989, paraît « Tu ne m'aimes pas », roman dans lequel certains critiques voient la quintessence de la démarche romanesque élaborée par l'autrice au fil de ses œuvres. Nathalie Sarraute meurt dans le 16e arrondissement de Paris le 19 octobre 1999. Elle est inhumée à Chérance, dans le Val d'Oise. Alors, tu vas vraiment faire ça ? Évoquer tes souvenirs d'enfance, comme ces mots te gênent, tu ne les aimes pas, mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs. Il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça ? Oui, je n'y peux rien, ça me tente, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être, est-ce que ce serait pas, on ne s'en rend pas parfois pas compte, c'est peut-être que tes forces déclinent. Non, je ne crois pas, du moins je ne le sens pas. Et pourtant, ce que tu veux faire, évoquer tes souvenirs, est-ce que ça ne serait pas... Oh, je t'en prie. Si, il faut se le demander. Est-ce que ce ne serait pas prendre ta retraite, te ranger, quitter ton élément, ou jusqu'ici tant bien que mal? Oui, comme tu dis, tant bien que mal. Peut-être, mais c'est le seul où tu aies jamais pu vivre, celui, oh, à quoi bon, je le connais. Est-ce vrai? Tu n'as vraiment pas oublié comment c'était là-bas? Comment là-bas tout fluctue, se transforme, s'échappe. Tu avances à tâtons, toujours cherchant, te tendant. Vers quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ça ne ressemble à rien. Personne n'en parle. Ça se dérobe. Tu la grippes comme tu peux. Tu le pousses. Où ? N'importe où. Pourvu que ça trouve un milieu propice où ça se développe, où ça parvienne peut-être à vivre. Tiens, rien que d'y penser, oui, ça te rend grandiloquent, je dirais même outrecuidant. Je me demande si ce n'est pas toujours cette même crainte. Souviens-toi comme elle revient chaque fois que quelque chose d'encore informe se propose. Ce qui nous est resté des anciennes tentatives nous paraît toujours avoir l'avantage sur ce qui tremblote quelque part dans les limbes. Mais justement, ce que je crains cette fois, c'est que ça ne tremble pas, pas assez. Que ce soit fixé une fois pour toutes, du tout cuit, donné d'avance. Rassure-toi, pour ce qui est d'être donné, c'est encore tout vacillant. Aucun mot écrit, aucune parole ne l'ont encore touché. Il me semble que ça palpite faiblement, hors des mots, comme toujours, des petits bouts de quelque chose d'encore vivant. Je voudrais, avant qu'ils disparaissent, laisse-moi. C'est alors que la brave femme qui achevait mon déménagement s'est arrêtée devant moi. J'étais assis sur mon lit dans ma nouvelle chambre, elle m'a regardé d'un air de grande pitié et elle m'a dit « Quel malheur quand même de ne pas avoir de mère !» Quel malheur ! Le mot frappe, c'est bien le cas de le dire, de plein fouet. Des lanières qui s'enroulent autour de moi, m'en serrent. Alors c'est ça, cette chose terrible, la plus terrible qui soit, qui se révélait au dehors par des visages bouffis de larmes, des voiles noires, des gémissements de désespoir. Le malheur, qui ne m'avait jamais approché, jamais effleuré, s'est abattu sur moi. Cette femme le voit. Je suis dedans, dans le malheur. Comme tous ceux qui n'ont pas de mère, je n'ai donc pas, c'est évident, je n'ai pas de mère. Mais comment est-ce possible ? Comment ça a-t-il pu arriver à moi ? Ce qui avait fait couler mes larmes que maman effaçait d'un geste calme en disant « Il ne faut pas », aurait-elle pu le dire si ça avait été le malheur ? Je sors d'une cassette en bois peint les lettres que maman envoie. Elles sont parsemées de mots tendres. Elles y évoquent notre amour, notre séparation. Il est évident que nous ne sommes pas séparés pour de bon, pas pour toujours. Et c'est ça, un malheur. Mes parents, qui savent mieux, seraient stupéfaits s'ils entendaient ce mot. Papa serait agacé, fâché. Il déteste ces grands mots. Et maman dirait, oui, un malheur quand on s'aime comme nous nous aimions, mais pas un vrai malheur. Notre triste séparation, comme elle l'appelle, ne durera pas. Un malheur, tout ça ? Non, c'est impossible. Mais pourtant, cette femme si ferme, si solide le voit. Elle voit le malheur sur moi, comme elle voit mes deux yeux sur ma figure. Personne d'autre ici ne le sait. Ils ont tous autre chose à faire. Mais elle qui m'observe, elle l'a reconnu. C'est bien lui. Le malheur qui s'abat sur les enfants dans les livres, dans Sans Famille, dans David Copperfield. Ce même malheur a fondu sur moi. Il m'en serre, il me tient. Je reste quelque temps sans bouger, recroquevillé au bord de mon lit. Et puis tout en moi se révulse, se redresse. De toutes mes forces, je repousse ça. Je le déchire, j'arrache ce carcan, cette carapace. Je ne resterai pas dans ça, où cette femme m'a enfermé. Elle ne sait rien, elle ne peut pas comprendre. C'était la première fois que tu avais été prise ainsi dans un mot. Je ne me souviens pas de cela me soit arrivé avant. Mais combien de fois depuis ne me suis-je pas évadé, terrifié hors des mots qui s'abattent sur vous et vous enferment. Même le mot bonheur, chaque fois qu'il était tout près, si près, prêt à se poser, tu cherchais à l'écarter. Non, pas ça, pas un de ces mots. Ils me font peur, je préfère me passer d'eux, qu'ils ne s'approchent pas, qu'ils ne touchent à rien. Rien ici, chez moi, n'est pour eux. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.